Chers frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre est choquant. Il faut le reconnaître. Ça va barder. Mais si on est lucide, ça barde déjà. Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de traverser cette période ? Le type de texte que nous avons entendu porte un nom, on l'appelle ces textes, des textes apocalyptiques. Alors, apocalypse, ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça veut dire que c'est un dévoilement, une révélation. Il faut bien avoir ça dans la tête, sinon on ne comprend pas. Une apocalypse, c'est l'annonce de quelque chose de nouveau qui vient après une destruction. Après n'importe quelle destruction. Là, en l'occurrence, on va parler de trois destructions, de trois types de destructions, mais on pourrait très bien extrapoler et se dire que il existe une apocalypse, une révélation dans toute forme de crise. Tout simplement parce que le Seigneur nous aime, que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui, surtout ceux qui croient qu'il est ressuscité et qu'il vit avec eux pour l'éternité. Quelles sont les grandes crises, les trois types de catastrophes que Jésus annonce? On peut dire ça comme ça. Première catastrophe, c'est la question du temple. Alors les disciples, qui étaient-ils? Les disciples, c'était les pauvres gars de la campagne. Pardon de dire pauvres gars et d'allier ça avec campagne. Il n'y a pas de pauvres gars à la campagne. Mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Ils n'étaient pas habitués à toutes les formes de parisianisme, à toutes les formes de jérusalemisme. C'était des gens qui vivaient simplement, qui étaient heureux, mais qui n'étaient pas au courant de toutes les turpitudes de la capitale, comme ils ont l'habitude eux-mêmes de dire. Donc quand ils arrivent au temple de Jérusalem, waouh, ils sont bluffés, ils sont scotchés, ils ouvrent des grands yeux, ils sont émerveillés, ça brille de partout, et ça brille de loin, du désert on voit le temple. Alors, ils sont comme pétrifiés. Et Jésus leur dit, pendant qu'ils regardent le temple, pendant qu'ils sont « waouh !» Tout ça, ça va s'écrouler. C'est comme si vous rentrez à Saint-Pierre de Rome et qu'il y a quelqu'un et que le pape vous dit « tout ça, ça va s'écrouler. » Et là, du coup, on est un peu sceptique quand même. Vous aimez cet endroit, hein, si vous avez traversé Paris, traversé les 10 kilomètres, c'est que vous aimez Notre-Dame des Victoires. Si je vous disais que ça va s'écrouler, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, vous pouvez avoir tendance à vous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et comment je vais vivre? Moi qui ne me suis jamais séparé de Notre-Dame des Victoires. Il y a certains d'entre vous qui viennent me voir et qui disent, mais ça fait 40 ans, 50 ans que je vis à côté de Notre-Dame des Victoires. Que je vais à Notre-Dame des Victoires, j'aime Notre-Dame des Victoires. Eh bien, je vous annonce que cette statue, il n'en restera pas pierre sur pierre. C'est la vérité. Bien sûr que dans ce temple, il se fait des merveilles. Bien sûr. Mais le Seigneur permet que quelque chose soit cassé pour pouvoir nous révéler quelque chose de nouveau. Souvenez de la Samaritaine qui ne pouvait pas aller au temple. Du coup, les Samaritains, ils allaient au Mont Garizim, une montagne, pas loin. Là, ils pouvaient aller prier leur Dieu. Ils pouvaient aller prier Dieu. Jésus vient voir la Samaritaine et lui dit, t'inquiète pas, plus besoin d'aller au temple, plus besoin d'aller sur le Mont Garizim, parce que moi, le Seigneur, ton Dieu, je vais venir en toi. Tu vas être le nouveau temple. Et comment est-ce que ça va s'opérer? parce que Jésus va mourir et ressusciter. C'est ça la grande nouvelle. Jésus va mourir et ressusciter. Le temple va mourir, mais pas ressusciter. Jésus, lui, va mourir. Le temple nouveau, Jésus, le temple nouveau, va mourir et ressusciter. Et ça, ça change tout. Quand les martyrs, dans les premiers siècles, au temple, étaient martyrisés, les témoignages, tous les témoignages le disent, ils n'en faisaient pas des tonnes, hein. Ils étaient même contents. Mais il y en a même un, Saint Laurent, qui disait « Je suis assez cuit d'un côté, vous pouvez me retourner de l'autre ». Puis il y a des tas de témoignages comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient complètement focalisés sur la résurrection du Christ. Ils vivaient déjà tous les jours avec le Christ ressuscité. Mais vraiment ressuscité, quoi, avec eux, en permanence. Donc en fait, ça ne changeait pas grand-chose qu'ils meurent, puisque Jésus était ressuscité. Bon, mais ça peut être difficile à comprendre. Alors le Seigneur Jésus prend un deuxième exemple. César. Les politiques. La politique, c'est fascinant la politique, il faut reconnaître. Moi ça me fascine, il y a des choses marrantes, il y a des stratégies, on voit les forces bouger d'un côté, bouger de l'autre, on voit les destins des pays changer, etc. En histoire c'est passionnant de voir ça. Bon, mais si on regarde avec une loupe et si on regarde tous les jours ce qui se dit, ce qui se raconte, ce qui se forme, ce qui se déforme, à la fois on est fasciné, mais en même temps on peut avoir très peur. Un peu comme les disciples qui regardent le temple. Et Jésus dit, mais il va pas, ils vont tous mourir. Il ne va pas y en rester un de vivant. Et le prophète Malachie, lui aussi, il le dit. Il le dit, mais tous ceux qui vous dirigent en maître, et ceux d'entre eux qui sont injustes et violents, et qui négligent l'humanité, ils seront détruits, il n'en restera pas un jusqu'au dernier. Seigneur, le Seigneur nous met les yeux en face des trous, tout ça, fumé, il n'en restera pas. Ça va, ils vont tous mourir, ben c'est vrai, ils vont tous mourir, même les plus valeureux d'entre eux. Même le grand Jean-Paul II que j'admire tant, ben il est mort. Heureusement, Jésus est mort et ressuscité et a permis au grand Jean-Paul II d'être vivant au milieu de nous. C'est ça qui change tout. Alors c'est valable avec César, vous voyez. Du coup, c'est pour ça que Jésus n'a pas peur de César. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de César, ni de celui qu'on appelle Néron. Il y a un député extraordinaire, moi que j'aime beaucoup l'écouter de temps en temps, qui appelle certains hommes politiques Néron, la cour de Néron. Que dalle, peanuts, il vaut rien. Enfin, je veux dire, la vérité, c'est que le Christ est ressuscité, est mort et ressuscité. Et ça, en revanche, mais ça peut nous aider à vivre. Et là, on n'est plus dans le découragement, on n'est plus dans l'aquabonite, vous voyez, on n'est plus dans... On est avec le Christ ressuscité tous les jours, et ça change tout, dans le temple et à l'extérieur du temple. Troisième catastrophe ou type de catastrophe qui peut arriver, et ça aussi c'est une fascination qu'on a tous, enfin qu'on a certains d'entre nous ont cette fascination encore plus exacerbée, mais elle existe quand même, toujours à partir d'une vérité, hein, d'une nécessité. Le temple, il était nécessaire, les hommes politiques, les dirigeants, ils sont nécessaires, mais c'est la nature, bien sûr, c'est la nature. La nature, elle peut vous engloutir en 4 secondes. Il y a des peuples entiers qui ont disparu parce que la montagne a explosé, parce que les volcans ont explosé, parce que les tsunamis sont arrivés, parce que la 1910, la crue de la Seine, vous voyez, les éléments, puis il y a une espèce d'angoisse qui court en ce moment, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Formidable. Bien sûr que j'y crois au réchauffement climatique. Bien sûr qu'il faut arrêter de faire des bêtises avec les usines, les avions, les trucs, etc. Bien sûr qu'on est tous responsables d'une façon ou d'une autre. Il faut changer notre mode de vie. Bien sûr. Mais même la nature, il ne restera pas un arbre sur un autre arbre. Tout ça va disparaître aussi. La nature elle-même est mortelle. Regardez les saisons, on entre dans l'hiver. À quoi sert l'hiver? Justement à nous montrer cette réalité. L'hiver, ça sert à nous montrer que les choses disparaissent, que la nature, dans sa plus grande beauté, dans sa plus grande fécondité, disparaît. Et qu'au milieu naît une lueur d'espoir dans une crèche bientôt apparente qui va nous mener vers le Christ ressuscité. Et vous voyez tout ça, pourquoi est-ce que le Seigneur nous permet de que nous soyons conscients de ces vérités? Mais tout simplement pour notre joie. Faites le test. Faites le test. Pendant 10 minutes, vous pensez aux catastrophes naturelles. Vous écoutez les gens qui vous prédisent que le Groenland, il n'y en aura plus, que les gens des Tuamotu vont être sous l'eau. Voilà. Faites ça pendant 10 minutes. Puis après, pendant 10 minutes, vous méditez sur la résurrection de Jésus. Et vous allez voir ce que ça fait. Il y a une sorte de paix qui va s'installer en vous. La mort est morte. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Quand on regarde la croix qui est derrière moi, c'est ça qu'on est en train de regarder. La croix qui est derrière, elle nous dit tout ce qui est mortel est destructible. Ça l'est effectivement, mais moi, le Seigneur ton Dieu, je vais permettre que toi, tu ne sois pas détruit. Et moi, le Seigneur ton Dieu qui ai traversé la mort, je vais t'aider à traverser le monde qui vient. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, le Seigneur ton Dieu ressuscité, je vis avec toi tous les jours de ta vie. Je suis à côté de toi parce que j'ai traversé la mort. Tout ça, je l'ai traversé. Il a traversé les catastrophes naturelles, il a traversé les aléas politiques, et il a traversé les beautés du temple, oui. Et si Saint-Pierre de Rome s'écroule, eh ben, ce n'est pas la mer à boire, parce que Jésus est ressuscité. Il faut qu'on ait ça dans le cœur, vous voyez. Et de cette façon, on va devenir extrêmement souple en Dieu. On va devenir souple en Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est toujours une question qu'il faut se poser dans ces moments apocalyptiques qui finalement existent depuis que l'homme existe. Il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours. Pour mettre en lumière la résurrection, sûrement, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce que je peux faire contre le réchauffement climatique, contre ou avec les hommes politiques ou les puissants? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce temple? Qu'est-ce que je peux faire? Mis à part donner 10 euros au truc là-bas lumineux. Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur le dit. Suivez-moi. Croyez que je suis ressuscité. Croyez que je suis avec vous. Faites votre boulot chaque jour. Faites votre devoir d'État chaque jour. Ce que vous avez à faire chaque jour. Et vous allez tout traverser. Parce que vous serez dans l'espérance, vous allez tout traverser. Et moi, j'ai observé une chose assez étonnante. Si on fait ça pendant un certain temps, si vraiment on se force pas à ne pas... Oui, on peut réduire l'écoute des journaux, l'écoute de... le regard sur ses téléphones portables. Oui, tout ça, on peut le réduire, mais si on force son regard à regarder notre monde à travers le Christ ressuscité, vivant, mort et ressuscité, ce qui va se passer, c'est que notre intelligence sur les événements vont s'affiner et on va prendre du recul. Notre regard politique va s'affiner. Notre regard sur ce temple va s'affiner. Notre regard sur la présence de Dieu en nous et autour de nous va s'affiner. C'est très étonnant. La proximité du Christ ressuscité, ce n'est pas seulement le moyen d'avoir une solution à notre problème. C'est ce que nous donne le Père pour traverser cette existence de façon juste, ajustée. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à vivre avec le Christ ressuscité, avec le Christ mort qui a tout traversé, qui est ressuscité et qui nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Amen.